mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Bonjour aux auditeurs.
Nous pourrions cette semaine faire le point sur le rayonnement de l'anthropologie de René Girard et l'influence qu'elle exerce.
Tu nous avais expliqué qu'il s'agissait d'une pensée méconnue.
Oui, l'anthropologie de René Girard est encore méconnue. Et surtout, elle fait l'objet d'un dédain de la part de l'intelligentsia française. Et cependant, nous allons constater que ces concepts clés se sont largement diffusés, sans proclamation tonitruante, mais de façon progressive, presque souterraine. Pour cela, nous pouvons passer en revue un certain nombre de domaines.
Lesquels nous proposes-tu ?
Que dirais-tu de commencer par la psychologie ?
Très bien.
Il y a 40 ans, ce domaine était entièrement dominé par la psychanalyse. Il s'agissait de chercher, dans nos profondeurs intérieures, les origines lointaines de nos troubles, pour les amener à la lumière, cette démarche étant réputée nous libérer. Ce processus est même devenu un lieu commun des scénarios cinématographiques, comme le montre par exemple la comédie parodique « Mafia Blues ». Mais aujourd'hui, tout a changé. Le maître mot de la scène psychologique actuelle est le développement personnel. Ce n'est pas un concept précis, c'est plutôt un fourre-tout. Analyse transactionnelle, méthode Coué, accord Toltec, pensée positive, sagesses antiques ou exotiques, etc. Il s'approche même parfois de la dérive sectaire. Mais derrière cette extrême variété se dégage un point commun. Dans cette quête de développement de nous-mêmes, nous avons besoin d'un conseiller, de quelqu'un qui nous aide à préciser ce vers quoi nous voulons tendre. C'est tout simplement un médiateur au sens de René Girard, c'est-à-dire un tiers qui nous indique quoi désirer pour nous-mêmes. Ainsi s'explique la prolifération des conseils, maîtres à penser et autres gourous. Et l'un des courants les plus importants du développement personnel est bien le recours au coaching, pour parler anglais. Jadis, les joueurs de tennis avaient un entraîneur. Aujourd'hui, ils ont un coach technique, un coach pour le physique et un autre pour le mental. Mais pas besoin d'être un champion pour cela. Sur Internet, nous trouvons des propositions de coaching de vie à destination de tout un chacun.
Avec la psychanalyse, n'avions-nous pas déjà cette figure de médiateur girardien en la personne du psychanalyste ?
Je crois que nous pouvons dire que non, parce que le psychanalyste rejetait précisément l'idée de conseiller ou d'orienter son patient. Il se voulait une sorte d'accoucheur qui aide le patient à prendre conscience des choses refoulées au fond de lui-même. Cela n'a rien à voir avec l'attitude du coach.
Passons peut-être à d'autres domaines.
Dans le domaine économique, le rôle du mimétisme a été largement mis en lumière. Les investisseurs sur les marchés ont un comportement moutonnier. Ce comportement se retrouve même inscrit dans les algorithmes des ordinateurs, puisque ceux-ci prévoient des ordres de vente ou d'achat en fonction de ce que font les autres. Dans le monde de l'entreprise également, le mimétisme s'impose avec la pratique du benchmarking. Ça continue avec les mots anglais. Notons au passage que cette manie d'employer des mots anglais est une forme de mimétisme. Pour en revenir au benchmarking, il s'agit tout simplement de comparer les caractéristiques, les méthodes et les résultats de sa propre entreprise avec d'autres entreprises similaires et prendre exemple sur leurs pratiques efficaces, c'est-à-dire les imiter. Quant à la publicité, elle ne fait pas mystère de sa vocation à susciter ou orienter les désirs des consommateurs, et cela depuis longtemps. Nous avons beau le savoir, cela ne change rien à l'affaire. Le girardisme s'est instillé jusque dans une campagne de recrutement de l'armée de terre. Son slogan était « J'ai rejoint les rangs pour sortir du lot ». Voilà l'expression même d'un paradoxe à la Girard. On se distingue en se noyant dans la masse. C'est comme ces publicités qui nous susurrent que nous sommes uniques, en achetant exactement le même produit que des centaines de milliers d'autres personnes. Mais le domaine de la publicité a dépassé son cadre en créant, grâce aux téléphones intelligents et aux réseaux sociaux, un nouveau métier.
De quoi parles-tu ?
Des influenceurs et influenceuses. Les influenceurs et influenceuses se mettent eux-mêmes en scène sur les réseaux sociaux et vantent au passage tel produit ou tel service. Leurs fans les admirent et suivent leurs prescriptions. cela peut être une activité extrêmement lucrative. Elle est reconnue et acceptée comme telle, alors qu'en d'autres temps, une telle activité eût inspiré de la circonspection, voire du mépris. Le comble est que les fans, les followers, puisque nous sommes aujourd'hui condamnés à l'anglais, n'ont aucunement honte de ce rôle de suiveur. Ils en sont presque fiers, alors qu'il n'y a pas si longtemps, l'originalité était une obligation. Seule l'anthropologie de René Girard permet de rendre compte d'un phénomène aussi étonnant.
Est-ce le moment de parler de sociologie ?
Ce domaine a lui aussi beaucoup évolué ces temps derniers, là encore dans une direction girardienne. Traditionnellement, il était marqué par le marxisme, la lutte des classes. Le parangon du genre était Pierre Bourdieu, qui reste influent auprès de nombreux jeunes auteurs. Dans cette sociologie, héritière du marxisme, tous les phénomènes sociaux sont analysés dans une logique de dominance. Les prolétaires face aux propriétaires, les classes faiblement éduquées face à celles qui le sont, chez Bourdieu, les femmes face aux hommes, pour les féministes d'aujourd'hui, les peuples anciennement colonisés face aux ex-empires coloniaux, etc. C'est un schéma de confrontation. Et ce schéma rend très mal compte d'un phénomène que nous voyons se développer aujourd'hui pour de nombreux sujets dans les sociétés occidentales. La partie dominée tire de cette situation même un pouvoir d'influence qui peut aboutir à une dominance inversée. Un indice de cela est le mécanisme de la discrimination positive. Cette vision agonistique et conflictuelle des relations sociales est aujourd'hui contestée par une autre approche, celle de l'analyse transactionnelle, et son symbole le plus populaire, le triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur. La particularité de cette grille d'analyse est qu'elle reconnaît qu'une même personne ou qu'un même groupe de personnes peut occuper tous les rôles. Cela permet d'expliquer de nombreux phénomènes sociaux qui sont incompréhensibles en se limitant à la grille binaire de la sociologie classique. Or, le triangle de Karpman n'est rien d'autre qu'un cas particulier du triangle mimétique de René Girard.
Nous reste-t-il des domaines à évoquer ?
Nous pouvons évoquer le domaine politique. Il n'est peut-être pas nécessaire de s'apesantir sur le recours fréquent au vocable de bouc émissaire. C'est bien entendu une signature girardienne. En se plaignant d'être un bouc émissaire, un groupe social va se défendre de telle ou telle accusation portée par d'autres, parce que les boucs émissaires sont innocents, point que Girard a largement analysé. Mais nous pouvons évoquer une autre notion. Elle est assez générale, mais je la classe au chapitre politique, parce que l'État français l'a officiellement retenue comme outil de gouvernement il y a une dizaine d'années.
De quoi s'agit-il ?
Il me faut, hélas, encore employer un mot anglais. Décidément, cette émission est maudite. Il s'agit du « nudging ».
Je n'en ai jamais entendu parler.
Et pour cause, puisqu'il s'agit d'induire le comportement des personnes dans une certaine direction, mais sans qu'ils s'en aperçoivent.
Jean-Louis, es-tu sûr de ne pas verser dans le complotisme ?
Absolument. Tu peux vérifier tout ce que je raconte sur le site de France Stratégie, l'ancien commissariat au plan, dans la note classée numéro 216 datant de mars 2011. L'économiste Richard Thaler, un Américain, a obtenu le prix Nobel en 2008 pour ses travaux sur le sujet. Son livre s'intitule « Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision ». Je peux t'affirmer que les responsables du marketing, mais aussi la plupart des gouvernements dans le monde, se sont précipités vers cette méthode. C'est normal. Elle oriente les individus dans la direction que souhaitent les gouvernements, tout en laissant à chacun l'impression que c'est lui qui décide.
Mais c'est de la manipulation.
Le débat fait rage à ce sujet. Certains pensent que c'est un progrès par rapport à la coercition. D'autres jugent en effet le nudging manipulatoire, sinon immoral.
Peux-tu nous donner quelques exemples ?
Le fisc britannique n'envoie plus de lettres comminatoires pour les retardataires. Il leur envoie simplement un message signalant que plus de 70% des Britanniques se sont déjà acquittés de leurs impôts. Aux États-Unis, certaines municipalités font savoir aux habitants que leurs voisins utilisent moins la climatisation ou produisent moins de déchets ménagers. Une célèbre compagnie américaine de services sur Internet a diminué la taille des assiettes dans ses restaurants pour inciter ses employés à moins manger. Il est possible de se resservir, mais en passant pour un glouton aux yeux de ses collègues. C'est de la régulation par le conformisme social.
Je comprends l'idée, mais quel est le lien avec René Girard ?
C'est le mimétisme, bien sûr. Signaler ce que font les autres incite à faire comme eux. Le conformisme social est l'un des effets du mimétisme.
Comment conclure ce tour d'horizon, Jean-Louis ?
Il est certes incomplet. Nous aurions pu parler de cinéma, des sondages, de la mode, des relations internationales et de bien d'autres sujets. J'espère seulement que le panorama que nous avons pu dresser en 10 minutes montre suffisamment que les concepts de l'anthropologie de René Girard sont de plus en plus présents, même si les milieux intellectuels lui restent en France assez hostiles.
Merci Jean-Louis. Au revoir aux auditeurs.
Au revoir Catherine.